Les Années-Lumière, édition du 12 juillet 2009. C'est le plus grand félin du monde, mais il est en danger. Le patrimoine génétique du tigre de Sibérie s'appauvrit. Bonjour, ici Sophie-André Blondin en remplacement de Yannick Villedieu. Je suis en compagnie de toute l'équipe pour vous présenter cette édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. C'est vous, Gaëlle Lucia Berdoux, qui nous raconterez l'histoire de ce félin immense qui voit son patrimoine rétrécir comme une peau de chagrin.
Il reste quelques centaines de tigres de Sibérie, mais beaucoup moins si on se fie à la diversité de leur ADN.
Des tigres nous bondiront dans un univers totalement différent, celui de l'informatique quantique. À l'Université Yale, des chercheurs ont réussi à construire un microprocesseur qui permet de conserver à l'échelle macroscopique les propriétés quantiques qu'on observe à l'échelle des atomes. Puis, au courrier des années-lumière, une question sur la qualité de l'air climatisé, dans les voitures. Et pour terminer la première heure, la chronique des années-lumière, en rappel, Marie-Dominique Beaulieu nous dit tout. Même ce qu'on n'a pas envie d'entendre sur les effets de la consommation d'alcool. En deuxième heure, la suite de notre série sur les stars des étoiles, Gaëlle Lucia Berdoux, place à Pierre-Simon Laplace.
Un touche-à-tout qui, au 18e siècle, s'est intéressé notamment à la mécanique du système solaire et qui n'avait surtout pas besoin du grand créateur pour l'expliquer.
En rediffusion, ensuite, Yannick Villedieu raconte avec trois invités la vie et l'œuvre de Norman Bethune, ce médecin canadien mort en héros en Chine il y a 70 ans et qui a consacré sa vie au secours des populations en situation de conflit. Ce que Bethune a fait, bien sûr, ce qu'il ferait aussi s'il était encore vivant. Et pour conclure l'émission, vous recevrez l'auteur de la semaine, Chantal Srivastava.
Il s'appelle Luc Fougérol. Il vient partager sa passion pour les crocodiles et nous présenter un très beau livre qu'il leur consacre.
C'est un redoutable carnivore, et pourtant, il est bien fragile. Le tigre de l'amour, qu'on connaît mieux sous le nom de tigre de Sibérie, a beau être le plus grand des félins, sa population ne compte aujourd'hui que 500 individus, 500 représentants d'une espèce qui a alimenté pourtant les légendes et les contes pour enfants, souvenez-vous. Mais cette espèce pourrait bien un jour ne plus faire partie que des livres d'histoire, Gaëlle Lucia Berdoux.
Oui, c'est déjà le cas de plusieurs sous-espèces de tigres, qu'on pense à ceux de Java ou de Bali qui ont déjà disparu. C'est le cas aussi du tigre de la Caspienne. Il y a le tigre de Chine du Sud, aussi qu'on ne retrouve plus qu'en captivité aujourd'hui. Selon le Fonds mondial pour la nature, il reste à peu près 4000 tigres à l'état sauvage dans le monde, dont à peu près 500 tigres de Sibérie, qui vivent, eux, dans l'extrême sud-est de la Russie. Et selon des chercheurs qui les étudient, c'est une population stable, mais à l'avenir bien incertain. Ces chercheurs viennent de publier une étude dans la revue Molecular Ecology, où ils expliquent que le profil génétique des tigres de Sibérie est particulièrement homogène. Pour le savoir, ils ont prélevé des excréments de tigres dont ils ont extrait l'ADN. En tout, ils en ont étudié une centaine de ces quelques 500 tigres qui se promènent encore dans les forêts russes. Et c'est le plus important échantillonnage de cette espèce effectué jusqu'à maintenant. Et les chercheurs ont tiré des conclusions dont nous parle l'un d'eux, le biologiste Philippe Henry de l'Université de Colombie-Britannique à Kelowna.
Ce qu'on a pu tirer comme conclusion, c'était que cette population était séparée en deux par une zone urbaine et puis des routes entre la ville de Vladivostok et Ouzourisk. Et on a pu trouver qu'il y avait seulement, de ces 95 individus, seulement 3 individus qui avaient traversé cette barrière, en fait. Donc, déjà, cette population est séparée en deux. Deuxièmement, ce que nous, on a fait, on a calculé un indice qui s'appelle la taille efficace de la population. On sait que la taille totale de la population maintenant est environ de 500 individus et la taille efficace est en fait le nombre d'individus qui participent au processus reproductif en ce moment. Donc, on a pu calculer ça à être 35 individus. Donc, seulement 7% de tous les individus participent effectivement à la reproduction dans cette population, ce qui est très bas, ce qui est d'ailleurs le plus bas qui a été calculé pour chez les tigres, en tout cas.
Et quand vous dites que seuls 35 individus participent à la reproduction, est-ce que c'est parce que ce sont 35 individus qui physiquement se reproduisent seulement?
On ne peut pas vraiment tirer cette conclusion-là qu'il y a 35 individus qui se reproduisent physiquement maintenant, mais c'est en termes de la diversité génétique qui reste, c'était comme si une population idéale de 35 individus seulement, au lieu d'être 500 individus au total. Et ceci peut être affecté par exemple, le biais dans le nombre de femelles et de mâles. Donc, on a remarqué qu'il y avait plus de femelles que de mâles dans cette sous-espèce de tigre. Aussi, le succès reproductif. Il y a, par exemple, certains mâles qui auront un plus grand succès que d'autres mâles, donc un mâle dominant, en quelque sorte. Et aussi, simplement la biologie de l'espèce qui fait que, en fait, c'est l'espèce de tigre qui est le plus au nord de la distribution de tous les tigres, et donc elle aurait passé par les goulots d'étranglement successifs pour arriver dans sa distribution actuelle.
Qu'est-ce que vous appelez des goulots d'étranglement?
Donc en fait, c'est quand la population se réduit, et cette population a passé par un goulot d'étranglement dans les années 1940 de 30 individus, c'est-à-dire que à cause de la chasse et puis des conflits avec des humains, surtout en Chine et aussi en Russie, la population a baissé un effectif de seulement 30 individus, et à partir de là, ces 30 individus ont recolonisé toute la zone où ils habitent maintenant. C'est aussi à cause de ça qu'on pense qu'on a une taille efficace aussi basse dans cette espèce.
Donc, vous dites qu'il reste 500 tigres de Sibérie, mais que dans les faits, c'est un peu comme si on avait une population beaucoup plus petite que ça. Et en plus, vous constatez que cette population est physiquement séparée en deux sous-populations qui se croisent très peu ou qui se rencontrent très rarement. Est-ce que c'est inquiétant pour la population des tigres de Sibérie?
Alors, c'est inquiétant pour la plus petite population qui est, c'est-à-dire qu'il y a une grande population et puis la deuxième qui est beaucoup plus petite, donc qui a quasi, disons, une vingtaine d'individus seulement. Donc, c'est inquiétant pour cette population-là, d'autant plus que c'est une population qui est proche de la Chine avoisinante et puis de la Corée du Nord, et ce serait cette population-là qui pourrait potentiellement recoloniser la Chine, car ils ont perdu quasiment tous leurs tigres de Sibérie sauvage. Donc, pour la conservation de cette espèce, il est impératif de créer des corridors, maintenir la connectivité justement de l'habitat entre ces deux sous-populations pour qu'il y ait des échanges génétiques.
Et est-ce que pour l'autre partie de la population qui est un peu plus nombreuse, cette faible variabilité génétique pose quand même un problème à plus long terme?
Donc le plus grand problème justement, c'est ce problème d'adaptation par exemple au changement climatique ou bien tout simplement à... s'il y a une saison qui est plus sèche que les autres, s'il y a de la diversité génétique, certains individus qui sont différents des autres vont survivre mieux que les autres.
Ils vont pouvoir s'adapter, oui.
Tout à fait. Et la même chose si on parle, par exemple, de maladie, d'un virus ou bien une bactérie qui soudain infecte ces individus. S'il y a de la diversité génétique, il y en aura certains qui vont réussir à survivre. Tandis que s'il y a peu de diversité génétique, toute la population risque de s'éteindre très rapidement.
Philippe Henry, l'Université de Colombie-Britannique. Gaël, des tigres de Sibérie, il y en a pas mal, dans les eaux aussi. Est-ce que les chercheurs se sont aussi intéressés à eux?
Oui, en fait, ils ont prélevé des échantillons d'ADN chez quelques-uns de ces tigres, des tigres qui sont gardés dans des eaux en Amérique du Nord. Ils ont cerné leur variabilité génétique. Ces tigres vivent dans des eaux qui sont membres d'un programme de survie de l'espèce, c'est-à-dire qu'ils participent à des efforts de reproduction établis pour conserver les tigres de Sibérie. Et apparemment, ça fonctionne assez bien. On écoute à nouveau Philippe Henry.
Cette population est représentative de la variabilité qu'on trouve dans la nature. Et on a aussi trouvé qu'il y avait des variants génétiques qui avaient déjà disparu dans la nature.
Donc ils ont conservé une variabilité qui n'existe plus à l'état naturel.
Il est possible que certains individus des zoos étaient présents là avant que la population sauvage passe par ce goulot d'étranglement dans les années 40. Donc, il y aurait, par exemple, certains variants génétiques qui existaient avant que la population baisse à 30 individus.
Et est-ce que cette découverte peut aider les efforts de conservation?
Tout à fait. Donc, ces individus-là peut-être une priorité dans les efforts de conservation à dire qu'un individu qui a un variant génétique rare sera plus important qu'un autre individu qui a des variants génétiques dont on a 200 individus dans la nature et d'autres dans les zoos. Donc.
Et pour éventuellement se servir de ces programmes entre les zoos de reproduction pour repeupler peut-être en nature?
Donc ça c'est pas quelque chose dont nous on a vraiment étudié. Ce serait vraiment en dernier recours si la population vraiment baisse beaucoup, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et on espère que les efforts de conservation sur le terrain, dans la nature, en Russie, continuent. Et on n'aura pas besoin d'utiliser. Mais ça peut toujours être, disons, un effort de dernier recours.
Le biologiste Philippe Henry. Gaël, ces programmes de reproduction pour la survie de l'espèce, ça se fait régulièrement. Ça se fait aussi pas très loin d'ici, pas loin de Montréal.
Oui, aux zoos de Granby, qui accueillent deux nouveaux tigres de Sibérie mâles qui vont être jumelés à deux femelles du zoo dans un objectif justement de reproduction éventuelle. Mais malgré leur nom de tigre de l'amour, ce n'est pas une simple histoire d'amour qui les a réunis, mais des décisions beaucoup moins romantiques
un mariage
que ça.
Arrangé.
Oui, où on ne laisse pas grand-chose au hasard. C'est ce que nous explique Alain Fafard, chef des soins animaliers et de la conservation aux zoos de Granby.
Ces deux individus-là, en fait, ont été sélectionnés selon leur génétique, un arbre généalogique. On va chercher les parents, les grands-parents, pour être sûr que ces deux individus-là, autant le mâle et la femelle, ne soient pas apparentés, qu'ils sont un bon match, une bonne paire pour de la reproduction, pour avoir une bonne génétique, puis avoir une santé au niveau des génétiques, une santé génétique au niveau de l'ensemble des tigres de l'amour qui sont en captivité là, dans les zoos en Amérique du Nord.
Donc, c'est ça l'objectif, de conserver la santé de l'espèce?
Oui, c'est très important de conserver une bonne santé au niveau de cette espèce-là. Parce qu'il y en a environ 150, 155, là, ça varie là, selon les naissances, qui sont présentement enregistrés dans les zoos en Amérique du Nord qui participent au programme. Il y en a près de 500 à travers le monde. Les zoos qui vont participer au programme vont attendre des recommandations, soit qu'on veut avoir une femelle ou un mâle pour pouvoir faire de la reproduction. On attend les recommandations. Quelquefois, ça peut prendre des années même.
Monsieur Fafard, les scientifiques qui ont fait une étude sur la santé génétique, si on veut, la variabilité génétique de l'espèce de tigre de l'amour ou du tigre de Sibérie, se sont penchés à la fois sur les tigres à l'état sauvage, mais aussi en captivité. Et sur ces 150 individus, ils concluent que ces individus en captivité ont une variabilité génétique qui est peut-être même plus grande que celle de leurs congénères qui vivent encore dans la nature. Et ils disent que ça pourrait éventuellement servir pour améliorer les efforts de conservation, pour peut-être même repeupler cette sous-espèce à l'état sauvage. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, en fait, oui, c'est un peu le but visé par tous ces programmes-là. C'est d'un jour être capable d'utiliser, surtout au niveau des nouveaux-nés, des bébés, utiliser cette génétique-là pour repeupler au niveau du milieu naturel. C'est sûr que quand on est rendu au niveau du tigre de l'amour, où que la population en nature est tellement réduite que lorsque les individus se cherchent pour faire de la pour se reproduire, ben ils risquent d'avoir de la consanguinité, ça devient un problème.
Mais est-ce que c'est réaliste de penser que cette population en captivité peut servir à repeupler l'espèce à l'état sauvage?
Ben, je vous dirais que oui, je l'espère, parce que c'est un peu le but de mon travail, moi, d'aider à ce qu'un jour, ces spécimens-là vont pouvoir repeupler. Mais on ne peut pas rien faire. Il faut aussi régler le problème en nature.
C'est-à-dire?
C'est qu'il y a beaucoup de pression au niveau de la population humaine. On prend de plus en plus de place. Dans la région où vit le tigre de l'amour, bon, la population prend de la place, l'agriculture. Ensuite, on va parler de braconnage. Et puis, chez certains d'autres espèces, bon, on peut parler de pollution, mais dans des cas comme des grands félins comme ça, c'est l'habitat et beaucoup la chasse.
Est-ce qu'on peut penser qu'un tigre né en captivité peut être remis dans la nature et réussir à se nourrir, se reproduire, etc.?
Oui, oui, on le fait présentement avec différents types d'animaux. Ici au Québec, il y a des ours qui sont réhabilités, des cervidés, des oiseaux de proie. Il y a différentes espèces qui sont réhabilitées. C'est sûr que dans le cas d'un grand félin comme le tigre, on va beaucoup se concentrer sur les nouveaux-nés qui peuvent être remis dans des centres. Il y a une façon de procéder aussi. Ils sont pas relâchés comme ça dans la forêt, puis débrouillez-vous, là, ils sont pas laissés à eux-mêmes. Il y a des centres qui vont être spécialisés directement dans le milieu naturel, puis avec des grands enclos, pour faire le suivi de ces nouveaux-nés-là, de ces félins-là, avant de dire, OK, ils sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Mais ça, c'est un long processus qui peut durer plusieurs années.
Alain Fafard du zoo de Granby et Gaël, plusieurs années, effectivement, avant qu'on puisse penser à réintroduire des tigres de Sibérie dans la nature.
Entre autres parce que le problème du braconnage auquel faisait référence M. Fafard est encore bien présent, notamment en Asie. Cette semaine, surtout la revente, évidemment, de certaines parties de ces tigres-là. Cette semaine, à Genève, le sujet a été abordé à une réunion de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. Et ce qui a notamment fait débat, c'est la possibilité de permettre l'élevage de tigres et leur commerce pour contrer ce braconnage-là, une solution qui est loin de faire l'unanimité.
Je peux vous poser une toute dernière question, Gaëlle. Pourquoi le tigre de l'amour?
Eh bien, probablement pour le fleuve Amour, parce que c'est la région où le tigre de Sibérie était présent à l'époque. En fait, maintenant, la répartition est beaucoup plus petite et il s'est un peu éloigné du fleuve.
C'est éloigné de l'amour. Merci, Gaëlle.
Je vous en prie.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière.
L'ordinateur quantique, ce n'est pas pour demain. N'empêche, des équipes de recherche s'appliquent ici et ailleurs dans le monde à aplanir les obstacles qui nous séparent de l'utilisation en informatique et à l'échelle des ordinateurs, des formidables propriétés quantiques qu'on reconnaît déjà à l'échelle des atomes. Quelles sont ces propriétés? Surtout les états de superposition. La possibilité de coder, par exemple, 0 et 1 à la fois, au lieu d'y aller successivement comme le font les ordinateurs classiques. On imagine bien que cette superposition d'états permet de multiplier la vitesse de calcul, la puissance d'un ordinateur qui utiliserait un microprocesseur quantique. Sauf que, on commence à peine à réussir à fabriquer de tels microprocesseurs. Une équipe de l'Université Yale vient de faire paraître, par exemple, un article dans la revue Nature qui relate un premier succès du genre avec le physicien Alexandre Blais de l'Université de Sherbrooke. On a réussi un circuit électrique de dimension macroscopique qui fonctionne selon les principes de base de la mécanique quantique. Le circuit fait 7 mm. Il peut paraître tout petit. Mais à l'échelle quantique, c'est gigantesque. Les explications du théoricien Alexandre Blais de l'Université de Sherbrooke sur les nouveaux progrès.
Depuis 2003, on travaille de façon théorique, donc c'est mes travaux, et expérimental avec les gens à Yale et un peu partout dans le monde, en fait, à arriver jusque-là. Les défis techniques sont immenses parce que, donc en fait, quand on pense à mécanique quantique, en général, on pense vraiment à un seul atome, un seul photon, peut-être une molécule, donc des choses qui sont microscopiques. Maintenant, on parle plutôt de circuits électriques qui sont macroscopiques, qui sont immenses du point de vue de l'atome. Puis malgré ça, il faut réussir à maintenir ces systèmes-là dans un état quantique. Donc, le terme technique ici, c'est la cohérence. Ça nous prend une cohérence quantique qui soit maintenue suffisamment longtemps pour réussir à faire toutes les opérations nécessaires à réaliser un algorithme, un calcul quantique.
Et un état quantique, c'est un état qui multiplie les possibilités, par exemple, de l'informatique, parce que c'est un état qui permet, en quelque sorte, plusieurs états à la fois.
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, dans le transistor standard, dans notre ordinateur actuel, on a un paquet de 0 et de 1. Donc, c'est la base de l'informatique quantique ou classique.
Ou c'est 0, ou c'est 1.
Exactement. Ce qui se passe dans l'informatique quantique, c'est que l'information peut être 0 et 1 simultanément. Ce n'est pas 0 ou 1, ce n'est pas un ou l'autre. C'est vraiment les deux à la fois. Et donc là, on essaie de transposer cette logique-là. On sait que depuis presque une centaine d'années maintenant, on sait que cette logique-là s'applique tout à fait bien à l'atome. Mais maintenant, on essaie de l'appliquer au monde macroscopique. Quelque chose qui n'était pas du tout évident que ça pouvait se faire aussi bien que ça, là, il y a même quelques années.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on vient de réussir maintenant à l'échelle macroscopique et à l'échelle théorique de votre part, mais aussi pratique à Yale ou expérimentale à Yale?
Donc, c'est un ensemble de choses. Le premier ingrédient, c'est le bus quantique, qui permet la communication à longue distance étant quelque chose comme un centimètre ici, mais qui permet la communication à longue distance entre différents transistors quantiques qu'on appelle les qubits. Donc ça, c'est un élément essentiel. Le deuxième élément, c'est que nos transistors quantiques, nos qubits, soient de meilleure qualité. Et au cours des dernières années, on a compris de plus en plus comment faire un transistor quantique soit de meilleure en meilleure qualité, donc que sa cohérence soit de plus en plus fiable pour de longtemps.
Et là, cette cohérence-là, vous parlez de longue durée, mais on parle encore de durée objectivement très, très courte de cette cohérence quantique.
Oui, tout à fait. On parle de millionièmes de seconde ici. Là. C'est minuscule. Mais ce qui est important, c'est de comparer le temps, ce temps-là, un millionième de seconde, au temps que ça prend pour faire une opération logique quantique, qui est plus proche du milliardième de seconde. Donc, dans un millionième de seconde, une microseconde, qu'on dit, on a le temps de faire beaucoup de choses. Ça, c'est ce qui est important.
Et vous avez soumis ce nouveau processeur quantique à des calculs pour vérifier justement si ça réussissait. On parle d'un test d'annuaire inversé. Qu'est-ce que vous lui avez fait faire dans cette microseconde?
Oui, donc, il y a deux algorithmes qui ont été implémentés. Un qui s'appelle l'algorithme de Grover, qui cherche, de façon technique, on va dire, qu'il va chercher une base de données désordonnée. Donc, le bon exemple, comme vous dites, c'est l'annuaire. Donc, l'annuaire, on sait, c'est bien ordonné si on connaît le prénom et le nom de la personne. C'est facile de trouver son numéro de téléphone. Par contre, si on nous donne un numéro de téléphone, trouver le nom correspondant, c'est beaucoup plus de travail. Donc, en général, en moyenne, il va falloir, pour un numéro donné qu'on nous donnerait, il va falloir regarder la moitié des numéros de téléphone dans l'annuaire avant qu'on trouve le bon nom. Juste, on répète ça souvent, en moyenne. Ce que l'ordinateur quantique nous permet de faire, c'est d'aller un peu plus vite que ça. Donc, plutôt que de chercher, on va dire, n fois, il va falloir faire la racine de n fois quantiquement. Donc, par exemple, dans le cas d'une base de données qui a seulement 4 entrées, ce qu'on a fait ici, donc un tout petit annuaire, un annuaire avec 4 personnes dedans, classiquement, il aurait fallu regarder environ 2 fois, 2 à 3 fois. Quantiquement, on a regardé une seule fois et on a trouvé la bonne réponse.
À cause de cette puissance de calcul générée par les états simultanés.
Oui, c'est tout à fait quantique. Ça. C'est que maintenant, c'est comme si, plutôt que regarder une réponse après l'autre, c'est comme si l'ordinateur quantique évaluait toutes les réponses simultanément et savait laquelle est la bonne, la retourne. Par contre, il nous reste beaucoup de compréhension fondamentale pour nous amener à mettre beaucoup plus de ces transistors quantiques-là, de ces qubits-là. Seulement de passer de 2 à 3 et vraiment comprendre dans les détails comment ça fonctionne, il va falloir, c'est ce qu'on fait cette année. En fait, on travaille maintenant sur 3 qubits, 3 transistors. Puis le passage comme ça de 1, 2, 3, c'est quand même assez ardu. Mais l'impression générale dans le domaine, c'est que quand on aura compris ce qui se passe à 1, 2, 3, puis jusqu'à 10, quelque chose comme ça, éventuellement, le passage de 10, disons, j'ai un chiffre comme ça, à un nombre plus utile de transistors devrait se faire beaucoup plus facilement, un coup qu'on aura vraiment bien compris la base.
Alors là, on a réussi à 2 qubits. Si on prend un ordinateur que nous, on connaît, on parlerait de quelle quantité?
Un ordinateur d'aujourd'hui a des centaines de millions de transistors. La différence est immense. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'avec cette multiplicité de la logique quantique, si on pense, par exemple, à un ordinateur quantique qui aurait seulement 300 transistors, 300 qubits, il peut simultanément encoder 2 à la 300 possibilités. Ça, c'est le nombre de possibilités dans lesquelles il peut simultanément exister selon les lois de la mécanique quantique. Eh bien, 2 à la 300, c'est plus que le nombre d'atomes qui existent dans l'univers visible. Ce qui veut dire que si je prenais tous les atomes de l'univers visible, bien, j'aurais pas assez d'atomes pour créer mon ordinateur classique qui serait capable de simuler mon ordinateur quantique, qui serait aussi puissant que mon ordinateur quantique.
Alexandre Blais, chercheur et professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke, merci beaucoup de cette entrevue.
Merci à vous.
2 à la 300 avec seulement 300 qubits ou 300 transistors quantiques. On comprend que c'est cette puissance de calcul multipliée qui rend la mécanique quantique si intéressante lorsqu'on l'applique à l'informatique. D'où l'intérêt et les efforts pour faire passer l'informatique vers le monde quantique. Mais il reste des obstacles majeurs comme l'utilisation de supraconducteurs qu'il faut tenir à une température près du zéro absolu à moins 273 degrés Celsius. La fragilité aussi de cette fameuse cohérence quantique. Michel Devoret est un pionnier de la physique quantique, professeur à Yale et au Collège de France. Il dessine pour nous le paysage scientifique et technologique autour de l'informatique quantique.
Il y a plus d'une dizaine d'années, on a compris que la mécanique quantique appliquée au domaine de l'information permettait de changer la classe d'universalité de certains problèmes, c'est-à-dire des problèmes qui semblaient très difficiles à résoudre en utilisant les systèmes classiques devenaient beaucoup plus faciles à résoudre en utilisant des systèmes quantiques. Et ça, ça a été une grande révolution, c'était une révolution théorique au départ. C'était révolutionnaire parce que les mathématiciens et les informaticiens croyaient jusqu'alors que la classe, la complexité d'un problème, en gros la difficulté à le résoudre, était indépendante de la machine utilisée comme ordinateur. L'ordinateur est basé sur des circuits physiques et cette physique, les mathématiciens et les informaticiens pensaient qu'elle ne comptait pas dans la complexité.
Et finalement, elle compte parce que l'état quantique, donc l'état physique avec lequel on travaille, on essaie de résoudre un problème, peut multiplier la puissance, la rapidité de résolution des problèmes.
Voilà, c'est ça. En passant des systèmes classiques qui sont les systèmes habituels, qui sont employés dans les circuits intégrés de nos ordinateurs, de nos microprocesseurs, donc en passant à des circuits intégrés quantiques, par exemple ce que l'on réalise à l'université de Yale, des circuits supraconducteurs qui opèrent suivant les lois de la mécanique quantique et non pas de la mécanique classique, on démultiplie les possibilités du calcul. Et si vous voulez, il y a un ordinateur quantique et quantique il y a en fait deux fois. Il est quantique une première fois parce que il utilise pour coder les 0 et 1, les quantas, donc la quantité minimum d'énergie, et ça c'est très intéressant au point de vue de la conservation de l'énergie. Actuellement, disons, il y a une fraction notable de l'énergie qui passe au calcul, et puis il y a cette deuxième quanticité de l'ordinateur quantique, qui est la cohérence quantique, qui est le fait que vous pouvez avoir une superposition de 0 et de 1 quantum. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est que l'ordinateur quantique pose des tas de questions intéressantes aux informaticiens, aux électroniciens, aux mathématiciens. Je crois que l'ordinateur quantique, ça permet de comprendre mieux ce qui se passe quand on fait un calcul, ce qu'il est possible de faire par le calcul. Ça ouvre des perspectives sur la signification de ce qu'est vraiment un calcul, qu'est-ce qui fait la complexité d'un calcul. Pourquoi certains calculs sont simples, pourquoi d'autres sont compliqués. Cette information quantique, elle jette toutes sortes de lumières intéressantes sur ces questions.
Michel Devoret, professeur à l'université Yale. Mais à quoi ressembleront donc les éventuels ordinateurs quantiques? Ben, consultez votre boule de cristal. Elle est presque aussi valable que celle des experts pour le moment. Pensez seulement que très peu d'experts auraient pu vous décrire les ordinateurs qu'on trimballe aujourd'hui au quotidien jusque dans nos poches, il y a à peine 30 ans. Mais les progrès des équipes de recherche contribuent à rendre plus précise l'image qu'on se fait, peu à peu, des ordinateurs quantiques d'un avenir à plus ou moins long terme. Des progrès en saut de puce ou des bons quantiques? Eh bien, on verra bien. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, Norman Bethune, médecin engagé, héros célébré, un regard sur la vie, l'œuvre et les valeurs de ce grand homme disparu il y a 70 ans.
Mais tout, on a deux côtés. Un côté d'engagement politique profond par rapport à la justice, l'égalité, l'accès aux soins. Et il y a un côté médecin très terrain, pratico-pratique, d'aider des malades. Et si on le projette aujourd'hui, il me semble que sur le plan politique, Béthune s'engagerait très profondément dans un mouvement qui est en train d'émerger à l'échelle de la planète, qui consiste à dire pourquoi on ne créerait pas un système d'assurance maladie universel à travers la planète.
C'est maintenant l'heure du facteur. Et voici la question de la semaine.
Oui, bonjour. Il y a un courriel qui circule en ce moment à l'effet qu'il serait toxique de démarrer l'air climatisé dans les voitures immédiatement dès le départ de l'auto. Je me demandais, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un faux courriel comme tant de faux courriels peuvent circuler sur l'Internet? Merci.
Vous avez peut-être vous aussi déjà reçu ce courriel qui dit qu'il faut absolument ouvrir les fenêtres avant de démarrer la climatisation, surtout s'il fait très chaud, à cause des concentrations élevées de benzène présentes dans l'habitacle. Vérité, légende urbaine? Pour le savoir, Chantal Srivastava a joint Audrey Smargiassi, spécialiste en santé environnementale et chercheur à l'Institut national de santé publique du Québec.
Bonjour, Mme Smargiassi.
Bonjour.
Alors, est-ce que ce message-là, vous l'avez vous-même personnellement déjà reçu?
Oui, je l'ai vu.
Et vous en pensez quoi?
Est-ce que j'en pense quelque chose? En fait, est-ce qu'il y a des risques associés aux concentrations élevées de contaminants dans les voitures lorsqu'elles sont en arrêt? En fait, les concentrations sont élevées, on les sent quand on rentre dans une voiture. La première chose que moi, je fais personnellement, s'il fait chaud, c'est que j'ouvre les fenêtres pour aérer, refroidir ma voiture, puis ensuite, je pars l'air climatisé. C'est le gros bon sens. Est-ce qu'on doit se préoccuper? Ben, les niveaux élevés vont rapidement s'équilibrer avec les concentrations avec l'air de l'extérieur. Ils vont donc diminuer rapidement aussitôt qu'on va partir la voiture et même l'air climatisé.
Alors, dans ce message que j'ai moi-même reçu, on parle entre autres d'un contaminant qui en inquiète plusieurs, le benzène, et on dit, bon, il y a du benzène qui est émis par les produits qu'on a pour fabriquer avec les dérivés du pétrole, le tableau de bord, les plastiques et ainsi de suite. Est-ce que ça, c'est vrai?
En fait, je pense qu'on parle de concentration élevée de dérivés du benzène. On parle de concentration élevée de composés organiques volatiles, de composés aromatiques, entre autres, comme on peut penser au styrène, au toluène, à certains phénols. Le benzène n'est probablement pas le contaminant le plus élevé là, dans les voitures.
L'air qui est à l'extérieur, est-ce que parfois il n'est pas pire que l'air qu'on a à l'intérieur?
Tout à fait. Si on se retrouve dans un bouchon de circulation, qu'on est très près des tuyaux d'échappement des voitures, ben on va être exposé rapidement, même si les fenêtres sont fermées, aux polluants qui sont émis par les voitures autour de notre voiture, de notre véhicule.
Donc, pour répondre à l'auditrice, le scénario, c'est on ouvre les fenêtres lorsqu'on entre dans la voiture et qu'il fait très chaud. Si on est dans un bouchon de circulation, on fait quoi?
Si on est dans un bouchon de circulation pour une à deux minutes, de garder les fenêtres fermées et en fait de ne pas avoir une entrée d'air pourrait peut-être faire en sorte qu'on serait exposé à des niveaux de contaminants un peu moins élevés. Toutefois, l'équilibre entre l'air extérieur et l'air de la voiture va se faire très rapidement. Donc, si on est dans un bouchon de circulation pour plus que 2-3 minutes, on va quand même respirer l'air autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, personnellement, j'essaie de voir de quelle façon je suis capable de sentir le moins des contaminants. Donc, des fois, en ouvrant les fenêtres un petit peu, on va faire entrer l'air qui va être brassé. Donc, les contaminants vont être un peu moins élevés en hauteur. Puis, en ouvrant les fenêtres, on va peut-être réduire un peu notre exposition là, dans un bouchon de circulation.
Et quand on roule, on ouvre les fenêtres un petit peu donc pour chasser tout cet air-là.
Exact.
Est-ce que la climatisation a des filtres qui changent quoi que ce soit à la façon dont il y a une transition qui se fait entre l'extérieur de la voiture et l'intérieur?
Je ne pense pas. Normalement, quand on utilise l'air climatisé, l'air est en recirculation. Et à ma connaissance, il n'y a pas de filtre là, qui permet de filtrer les contaminants qui proviennent de l'extérieur.
Et donc, en guise de conclusion, Mme Smargiassi, qu'est-ce qu'il faut penser de ce genre de lettre qui cite la science pour sonner l'alarme? Est-ce que c'est de la légende urbaine? Il n'y a pas d'études scientifiques vraiment qui soutiennent ce qu'on nous dit dans ce message-là.
En fait, ben oui, il y a certains contaminants qui sont plus élevés dans une voiture neuve, par exemple, qui est soumise à une chaleur intense. Par contre, les risques me semblent faibles comparativement à ceux, par exemple, qui sont associés au fait d'utiliser sa voiture, de faire du commuting, d'utiliser la voiture à tous les jours, et puis d'être exposé donc aux tuyaux d'échappement de toutes les voitures qui sont autour de nous. Je pense que le courriel semble sonner l'alarme un peu inutilement, selon moi.
Mais le bon usage serait de quand même aérer un peu la voiture avant de refermer les fenêtres pour démarrer la climatisation. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, Mme Smargiassi.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Chantal Srivastava s'entretenait avec Audrey Smargiassi, spécialiste en santé environnementale de l'Institut national de santé publique du Québec. Il y a des questions qui vous chatouillent la curiosité scientifique. On aimerait bien les entendre. Pour nous joindre par téléphone, vous composez de la région de Montréal, le 514-597-6166. De l'extérieur, le 1-800-752-9050. Vous pouvez nous joindre aussi par courriel. L'adresse est la suivante, lumière@radio-canada.ca. Dans quelques instants, la vérité, toute la vérité sur les effets de la consommation d'alcool, une chronique des années Lumière, en rappel avec Yannick Villedieu.
La chronique des années-lumière pour terminer cette première heure avec Marie-Dominique Beaulieu. Bonjour Marie-Dominique.
Bonjour.
Médecin de médecine familiale au CHUM, à l'Université de Montréal. Donc, vous allez nous parler en ce beau jour, Marie-Dominique, d'alcool. On va rappeler ce coup de théâtre qui a lieu en France il y a quelques semaines. Le directeur de la santé publique déclare qu'il n'y a pas de consommation sécuritaire minimale d'alcool en ce qui a trait au risque de cancer. Deux semaines plus tard, et ça c'est peut-être plus important, ça vous a intéressé plus, il y a des chercheurs anglais qui ont publié les résultats d'une grande étude menée auprès d'un million de femmes et qui arrive un peu à la même conclusion, il n'y a pas de consommation sécuritaire, c'est bien ça?
C'est bien cela, mais nous allons en apprendre un petit peu plus et creuser. J'ai creusé pour vous. Alors donc, c'est sûr que on peut dire que certains se plaisaient à penser que l'alcool pouvait être bon pour la santé avec ce qu'on disait sur la protection du risque cardiovasculaire. J'avais d'ailleurs dans un voyage au Piémont en Italie un aubergiste qui nous offrait son Dolcetto en nous disant que le Dolcetto ne peut pas nuire, que c'est un médicament.
Et vous, comme médecin, vous ne l'avez pas cru?
Non, j'ai jamais prescrit moi l'alcool comme médicament. Il faut dire que le risque de l'alcool dans la santé est établi de longue date pour plusieurs problèmes, que ce soit le foie, le cœur, les maladies comme ça, le muscle cardiaque, des fois qui peut être atteint, etc. Sans compter les impacts sociaux de l'alcoolisme. Bon.
Et surtout le cancer.
Et voilà. Cependant, on avait quand même une notion de quantité sécuritaire dans le guide alimentaire canadien, ou en fait, c'est peut-être pas dans le guide, là, mais dans les recommandations canadiennes, en Amérique du Nord en général, on dit que 7 consommations par semaine, donc l'équivalent de une par jour pour les femmes, et 2 pour les hommes par jour, dont 14 pour les hommes, était une consommation considérée comme non problématique et sécuritaire. Intéressant, en France, c'était 14 pour les femmes et 21 pour les hommes, donc un peu plus. Ce qui suggère que la notion de norme était peut-être aussi sociale plus que
scientifique.
Que scientifique.
Ouais, c'est ça.
Alors, ce que suggèrent donc certaines études récentes, dont l'étude britannique, c'est qu'en fait, ce qu'on considérait justement, ce seuil qu'on croyait vraiment sécuritaire, ne l'est probablement pas, et que la consommation moyenne pour une femme d'un verre par jour ou de 7 par semaine et de 14 pour un homme n'est peut-être pas sécuritaire pour le cancer.
Alors, donc, venons-en à cette étude britannique, une grande étude importante.
Donc, près d'un million de femmes, en fait, ce sont que des femmes, dont une des limites de l'étude, qui, en fait, se présentaient à des cliniques de dépistage du cancer du sein.
Donc, il y a un biais
déjà. Là encore,
un
biais un peu. On sait que les femmes sont un peu différentes. Les femmes qui s'intéressent au dépistage, des fois sont même plus à risque de cancer. Ceci étant dit, un million, c'est du monde, suivi en moyenne pendant 7 ans, et qui ont répondu à un questionnaire sur leur consommation d'alcool. Et on a des liens extraordinaires avec les registres de cancer en Angleterre. Donc, ils ont pu tout mettre ça ensemble.
Oui,
c'est
oui,
vraiment
oui.
quelque chose de remarquable.
Alors, ça dit quoi?
Bon, d'abord, il faut dire que la majorité de ce million de femmes ne consommait pas plus que 7 verres par semaine. Donc,
oui.
vraiment des consommatrices
de toute petite
quantité.
Oui. Mm-hmm.
Donc, malgré cela, tout cancer confondu, on a observé un risque de 15 % d'augmentation du risque relatif du cancer, ce qui représente en fait 15 cas de cancer pour 1000 femmes. Hein? Donc, ça nous donne une idée, là. Le risque était beaucoup plus augmenté pour le cancer du larynx, de la gorge et de l'ésophage.
Et ça, on imagine
un effet indirect de l'alcool, en plus d'un effet indirect
qui attaque presque les cellules directement.
Exactement. Hein. Et ce risque, en fait, surtout pour les fumeurs, il y avait une synergie là, terrible. C'est vraiment avec alcool et tabac. Et une augmentation du risque relatif de l'ordre d'à peu près 10 % pour le cancer du côlon et de 12 % pour le cancer du sein. Mm-hmm.
Et ça, c'est beaucoup comme augmentation parce que c'est 10 % de quoi, comme on dit toujours?
Oui, en fait, bon, ça représente, comme on dit, environ... là.
Pour le cancer du...
Tout cancer confondu, là, c'est à peu près 15 pour 1000, donc c'est un petit peu moins pour le cancer, cancer du sein. Là.
Oui, oui.
Mais bon, c'est pas une énorme augmentation, mais si on multiplie par des millions de femmes, c'est quelque chose qui est
réel. Ça fait un certain nombre de cas.
Oui, oui. Et ce qui était particulier, c'est qu'ils ont mis en évidence la relation qu'elle était linéaire, ce qui leur fait dire qu'il n'y a pas de consommation sécuritaire et qu'elle apparaît très tôt.
C'est ça.
Cependant, ce qu'il faut dire quand même, les données sont très décrites dans l'article, le risque apparaissait vraiment à partir de 7 consommations par semaine ou plus. Et donc, les femmes qui rapportaient de 2 à 6 verres d'alcool de façon occasionnelle par semaine, il n'y avait pas tellement de risque.
Oui.
Donc, la consommation...
De toutes les sortes de cancers.
Oui, de toutes les sortes
D'accord,
de cancers.
D'accord, oui.
Donc, bon, c'est le côté un petit peu rassurant quand même. Là, c'est pas zéro alcool. Bon, alors, on a parlé des forces, on a parlé un petit peu des limites de cette étude. Malheureusement, les chercheurs ne donnent pas encore d'impact sur la maladie cardiovasculaire dans cette étude.
Parce que c'est la grande question.
Ben,
oui, ça augmente un peu le risque de cancer, mais ça protège du côté du cœur.
Oui,
là-dessus.
Bon, là-dessus, il faut vraiment dire que la plupart des chercheurs sont très prudents et que l'association protectrice n'est quand même pas établie de manière là, scientifique et expérimentale hors de tout doute.
D'où la raison de ne pas prescrire
l'alcool ni le vin comme méthode de prévention des maladies cardiaques.
Oui.
Ça, c'est important.
Donc, de ce côté-là...
Il n'y a pas beaucoup de nouveaux.
Mais sur le risque de cancer, donc, ce qui semble vraiment très différent, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé en France quand le directeur de la santé publique a sorti son rapport, dire même à partir d'un verre par semaine, vous augmentez votre risque?
Oui, exactement.
Alors, en conclusion, ça veut dire que, d'abord, votre bon aubergiste qui vous avait prescrit le Dolcetto...
Oui, malheureusement...
Il n'a pas raison.
Bon, ça
c'est la première chose.
Non, ça peut peut-être bon pour le moral des fois, mais pas pour la santé physique.
Mais bien pratiquement, là, à partir notamment de cette étude britannique, vous avez dit quand même, entre 1 et 6 verres, il n'y a pas...
Écoutez, une consommation occasionnelle...
Il n'y a pas d'augmentation statistiquement importante, là.
Et même dans le guide...
Dans l'étude britannique.
Le guide français dont on parle finit quand même en disant qu'une consommation festive occasionnelle d'alcool ne semble pas comme telle associée à un risque comme significatif, là, dont on a parlé.
Mm-hmm.
Et on rappelle cependant le mélange alcool régulièrement, donc l'équivalent de même aussi peu qu'un verre par jour pour la femme ou 2 jours pour l'homme, avec le tabac, c'est un mélange qui est explosif.
Et ça, c'est vraiment radical et on comprend bien ce qui se passe.
Exact.
Effectivement, ça vous augmente et c'est vraiment le cancer des voies
aérodigestives
supérieures, qui sont radicales. Mais donc, en bas de 6 verres par semaine.
Oui. Chez la femme, en tout cas, oui.
Chez la femme. Chez l'homme, au moins, on est à l'abri.
On ne sait pas encore. Ah non, on ignore encore.
Marie-Dominique Beaulieu, je vous remercie beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Et voilà, c'est tout pour la première heure des Années Lumière. Ce soir, à 18h30, à la télévision de Radio-Canada, l'émission Découverte lance les célébrations du 40e anniversaire de la conquête de la Lune, premier de 4 épisodes d'une histoire de la NASA réalisée par la BBC. Mais avant de partir si loin, restez des nôtres à la radio pour la suite des Années Lumière après le bulletin de nouvelles. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, bienvenue aux années-lumière, toujours Sophie-André Blondin qui vous parle. Au menu de cette deuxième heure, Norman Bethune, médecin du peuple, spécialiste de médecine thoracique, mort en héros de la Révolution chinoise, mais qui avait déjà fait sa marque à Montréal et lors de la guerre civile en Espagne aussi. En rappel donc, une table ronde animée par Yannick Villedieu sur la vie et l'œuvre de celui qu'on a qualifié de personnage canadien le plus connu à l'étranger, après Céline Dion. Il y aura aussi, bien sûr, notre petit journal de la science. Chantal Srivastava rencontre l'auteur de la semaine, Luc Fougérol, qui nous dira tout, tout, tout sur les crocos, les crocos, les crocodiles. Mais tout d'abord, la série d'été des années-lumière. Les stars des étoiles. L'année mondiale de l'astronomie souligne le 400e anniversaire des premières observations de Galilée avec sa lunette. D'autres grands astronomes ont depuis façonné notre compréhension de l'univers et nous vous présentons le portrait de certains d'entre eux tout l'été. Cette semaine, Gaëlle Lucia Berdoux nous présente Pierre-Simon Laplace, scientifique français né au milieu du 18e siècle. C'était un touche-à-tout. Il a laissé sa marque en mathématiques avec des travaux sur la théorie des probabilités. Aussi en physique et en chimie, il a travaillé par exemple aux côtés du fameux Lavoisier. En astronomie, il a notamment fait avancer la compréhension du système solaire. Pour nous parler de Pierre-Simon Laplace, Gaëlle s'est entretenue avec Roger Hahn, professeur d'histoire à l'Université de Californie à Berkeley et auteur d'une biographie de Laplace.
Roger Hahn, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, Monsieur Hahn, vous avez consacré une grande partie de votre carrière d'historien à Pierre-Simon Laplace. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce personnage?
Eh bien, au début, c'est simplement par le trou qui existait dans la littérature scientifique, qu'il n'y avait pas de biographie de Laplace. C'est quelque chose qu'il fallait remplir.
Il faut dire que c'est une personne relativement méconnue dans l'histoire scientifique. On parle de lui pour l'instant en astronomie, c'est ce qui nous intéresse, mais c'est d'abord un mathématicien.
Oui, mathématicien, et même en astronomie, il est resté très mathématique dans sa conception.
Donc, ces mathématiques vont le mener vers l'astronomie et il s'attaque notamment à un problème particulier sur lequel il va se pencher. Ce sont ce qu'on appelle les inégalités des orbites de Jupiter et Saturne. Alors là, il faudrait que vous nous expliquiez de quoi il s'agit.
Bon, c'est un peu compliqué sans vous donner des détails mathématiques, mais en fait, c'est que la théorie de l'attraction universelle
de Newton, oui.
De Newton proposait que Jupiter allait diminuer le temps que l'orbite prenait et que au contraire Saturne allait augmenter petit à petit, mais c'est Laplace qui a démontré que finalement au bout de 900 et quelques années c'était juste le contraire qui arrivait, c'est-à-dire qu'il y avait un renversement de la diminution et de l'accélération. Et donc que ça revenait à un système plutôt stable, ou bien disons plutôt équilibré entre Jupiter et Saturne, à condition de passer au-delà de 900 et quelques années.
Et quelle importance cette démonstration va avoir dans son parcours ?
Eh bien, c'est simplement parce qu'il voulait absolument démontrer que le système solaire est un système stable et qu'il n'a pas besoin d'intervention divine pour être réglé.
Donc, il parle de stabilité dynamique.
Oui. Il a fait très, très attention parce que de ne pas dire stabilité absolue, parce que... Il y a toujours des progrès dans l'astronomie qui peuvent changer les données.
Et c'est un point tournant dans ses travaux qui vont le mener à rédiger des ouvrages assez majeurs. D'abord, l'exposition du système du monde, et puis ensuite, Mécanique céleste. Alors, parlez-nous un peu de ces ouvrages-là.
Oui, ce sont deux ouvrages très différents. Le traité de mécanique céleste était un travail qu'il avait entamé bien avant la Révolution, mais qui n'a pas pu terminer avant, le commencement était avant 1799. Mais en fait, c'était ça le but principal de sa carrière astronomique, c'est-à-dire d'avoir un traité de mécanique céleste qui touche uniquement ou presque entièrement le système solaire. Tandis que l'exposition du système du monde est un ouvrage beaucoup plus populaire, sans mathématiques, beaucoup plus court, et dans lequel il voulait exposer l'importance de l'astronomie pour l'intelligibilité du monde. Oui, enfin, j'aurais dû dire la dignité de l'astronomie. Il y a un passage absolument remarquable à la fin de l'exposition du système du monde qui dit que l'astronomie, par la dignité de son objet et par la perfection de ses théories, est le plus beau monument de l'esprit humain. C'est assez remarquable comme conclusion à son exposition.
Et comment tous ces travaux étaient reçus à l'époque où ils ont été écrits?
Très bien. Et ils ont été reçus en grande partie à l'école normale de l'an 3, c'est-à-dire en 1795-96, où il y a eu un renouveau de la science à la fin de la première grande révolution française. Il y a eu une espèce de rétablissement de la science comme un sujet important.
Rogiane, les travaux de Pierre-Simon Laplace sont souvent présentés comme la suite logique de ceux d'Isaac Newton. Pourquoi?
Eh bien, c'est uniquement parce qu'il a démontré la vérité de la loi de l'attraction, de la loi de la gravitation. Il a démontré que c'était une loi générale qui pouvait expliquer toute l'astronomie du système solaire. Et ensuite, il a voulu pousser cette idée jusqu'à la physique. Il a été important pour essayer d'implanter la loi de la gravitation dans les phénomènes physiques, c'est-à-dire phénomènes terrestres.
Ces travaux, Rogiane, vont faire dire à Pierre-Simon Laplace que le système solaire et le monde tournent très bien sans aucune intervention divine. Et c'est ce qui lui a valu une citation célèbre. Il a dit « Dieu est une hypothèse dont je n'ai pas besoin ». Alors racontez-nous un peu dans quel contexte il a dit ça.
Bon, ben, c'est assez amusant. On sait exactement que ça s'est passé à la Malmaison, la demeure de Bonaparte, qui est devenu Napoléon. Et quand Laplace a présenté une deuxième édition de son exposition du système du monde à Bonaparte, et était présent à cette entrevue aussi bien William Herschel, l'astronome anglais, et d'autres savants, Count Rumford et Chaptal. Et alors Bonaparte, qui venait d'avoir un lien ou bien un contrat, si je peux dire, avec le pape, qui s'appelle le Concordat, et qui voulait rétablir la religion catholique en France, a demandé à Laplace « Pourquoi n'avez-vous pas parlé de Dieu dans votre ouvrage ?» Et c'est à ce moment-là que Laplace aurait répondu qu'il n'avait pas besoin de cette hypothèse.
Et comment aurait réagi Bonaparte ?
Ils n'étaient pas d'accord. Il paraît qu'ils ont discuté avec les astronomes Herschel et d'autres savants qui étaient autour de lui. C'était une discussion très aimable car ils s'estimaient l'un et l'autre.
Et si Laplace fréquentait les salons de Bonaparte, ce n'est pas pour rien. C'est que ce n'est pas qu'un scientifique, c'était aussi un politicien aguerri.
Oui, il avait été nommé ministre de l'Intérieur après le coup d'État de Bonaparte en 1999, le 18 Brumaire. Et il est resté quelques semaines, 6 semaines, comme ministre de l'Intérieur, à quel moment Bonaparte l'a remplacé par son frère Lucien Bonaparte.
Alors peut-être pas si aguerri que ça, finalement.
Non. Et alors à ce moment-là, Bonaparte l'a nommé au Sénat, à son Sénat, qui était le Sénat conservateur ou le Sénat consultatif, était un organe législatif qui empilait exactement tout ce que Bonaparte voulait faire.
Est-ce que ces fréquentations politiques haut placées lui ont permis de faire avancer aussi la cause scientifique?
Absolument. C'est lui qui a pu effectuer une réforme de l'école polytechnique qui était devenue très militaire sous Napoléon et qui est redevenue civile sous Louis XVIII, entre autres. Et puis aussi, il a beaucoup aidé à pousser ses propres élèves qui ont réussi à se maintenir dans le système académique de la Restauration.
Et qui ont, j'imagine, poursuivi un peu ses travaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui reste des travaux de Pierre-Simon Laplace aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut les voir, ces effets-là?
Eh bien, je pense que d'abord, c'est sur le système solaire, pas tellement sur sur l'origine du système solaire, sa théorie de nébuleuse qui n'est plus du tout suivie aujourd'hui, mais l'idée qu'il y ait un système assez stable qui va continuer à exister autant qu'il n'y a pas de catastrophe majeure. Donc ça, c'est un côté de la suite de ses idées. Et l'autre, c'est l'idée de déterminisme. Il croyait vraiment que le savant, s'il avait suffisamment de données empiriques, et les lois de Newton, pourrait non seulement prédire le futur, mais en arrière, revenir en arrière et comprendre entièrement l'histoire de l'astronomie jusqu'au premier temps.
Alors, si on veut revenir un peu en arrière et revoir un peu ce qu'étaient les travaux de Pierre-Simon Laplace, on peut lire votre livre, Roger-Anne, Pierre-Simon Laplace, un itinéraire dans la science. C'est publié chez Gallimard. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Californie à Berkeley. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
La semaine prochaine, dans notre série d'été sur les stars des étoiles, place aux femmes astronomes, enfin!
Cette semaine, pendant que les grands de ce monde tergiversaient sur une éventuelle réduction des émissions de gaz à effet de serre, des chercheurs de la NASA ont encore une fois sonné l'alarme quant au sort de l'Arctique, où la glace fond plus vite que jamais. Dans leur article publié dans le Journal of Geophysical Research Oceans, Ron Kwok et ses collègues rapportent que l'épaisseur des glaces permanentes s'est réduite de 17 cm par an de 2004 à 2008. Qui plus est, les observations faites par le satellite iSat révèlent que, pour la première fois, la proportion des glaces nouvelles qui se forment année après année dépasse dorénavant celle des glaces plus anciennes qui persistent au fil des ans. Parmi les autres données troublantes, mentionnons le fait que la superficie totale des glaces plus anciennes a diminué au total d'1,5 million de kilomètres carrés, ce qui équivaut à la superficie du Québec. Selon les chercheurs, toute cette glace fond à cause du réchauffement du climat qui perturbe la circulation normale des glaces.
Tous les les livres s'entendent, Neptune a été découverte au 19e siècle. Mais le physicien australien David Jameson soutient que Galilée pourrait avoir découvert Neptune en 1613, 234 ans avant sa découverte officielle. En scrutant les carnets de notes quatre fois centenaires du père de l'astronomie moderne, le chercheur croit avoir trouvé des éléments indiquant que Galilée avait non seulement remarqué la présence de Neptune dans le ciel, mais qu'il avait compris qu'il ne s'agissait pas d'une étoile. La clé de cette nouvelle énigme se trouve dans la date exacte à laquelle Galilée a tracé un petit point noir qui se trouve à l'emplacement de Neptune. Alors, 6 janvier ou 28 janvier 1613? Des chercheurs de l'Université de Florence examineront l'encre des carnets de Galilée pour déterminer s'il faut dorénavant lui attribuer la découverte de Neptune. Le cas échéant, les experts seront nombreux à relire minutieusement tous les écrits de Galilée à la recherche d'une phrase codée. Le Florentin avait l'habitude de crypter ses découvertes dans des anagrammes et il n'aurait pas résisté, croit-on, à faire de même s'il croyait avoir découvert une nouvelle planète.
Pour vivre plus longtemps, mangez moins. C'est la conclusion d'une étude menée par des chercheurs américains qui ont observé les effets de la restriction calorique sur des singes. Et les scientifiques ont fait preuve de patience. Depuis 2 décennies, ils surveillent la diète et la santé d'un groupe de 76 macaques. La moitié peuvent manger à leur guise et les autres voient leur menu réduit de 30 %. Résultat, les individus qui ingurgitent moins de calories vivent plus longtemps et en meilleure santé. Après 20 ans, 63 % des singes au régime sont toujours en vie, contre 45 % des plus gourmands. Et les plus voraces sont 3 fois plus nombreux à avoir succombé à un cancer ou à une maladie cardiaque. Les scientifiques ont aussi noté que la diète diminuait la détérioration des muscles et du cerveau. Leurs résultats, publiés dans la revue Science, vont dans le même sens que des travaux menés auparavant sur des vers et des rongeurs. Selon ces recherches, certains gènes protègent l'organisme quand il est confronté à un stress environnemental, comme le manque de nourriture.
En Chine, Norman Bethune est un véritable héros. Ce médecin canadien est peut-être un peu moins connu ici. Pourtant, son œuvre médicale et humanitaire en fait un grand homme. 70 ans après sa mort en Chine, Yannick Villedieu a réuni des experts pour revoir la vie, l'œuvre et les valeurs de Norman Bethune. Voici, en rappel, cette table ronde.
Il est né en Ontario en 1890 et il est mort 49 ans plus tard, en 1939 donc, en héros en Chine, aux côtés des combattants de la longue marche de Mao Zedong. Entre-temps, il avait été brancardier sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, puis chirurgien thoracique à Montréal, puis médecin sur la ligne de front aux côtés des républicains de la guerre civile en Espagne. Cette grande figure, relativement peu connue ici, c'est le docteur Norman Bethune, dont on va commémorer la mémoire au cours des mois qui viennent pour marquer à la fois le 80e anniversaire de son arrivée à Montréal et aussi le 70e anniversaire de sa mort. Ce samedi, par exemple, la Fondation Aubin organisait un symposium sur cet internationaliste et, d'une certaine façon, médecin sans frontières avant l'heure. Et pour parler et de Norman Bethune et de son héritage, j'ai avec moi en studio 3 invités. André Lévesque, d'abord, historienne, professeure à l'Université McGill. Bonjour, Madame Lévesque.
Bonjour.
Marc Renault, sociologue, Université de Montréal. Bonjour, Marc Renault.
Bonjour.
Et Vincent Échavé, chirurgien au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, chirurgien de guerre aussi avec Médecins sans frontières. Bonjour, Monsieur Échavé.
Bonjour.
Alors, André Lévesque, je vais commencer avec vous, l'historienne, spécialiste du mouvement ouvrier, il faut le dire. J'ai dit en 2 mots qui a été Norman Bethune. Peut-être qu'il faut ajouter 2 ou 3 autres mots pour camper le personnage. Qui était-il? Que fit-il?
En fait, c'est quelqu'un qui arrive sur la scène montréalaise en 1928. Il trouve sa ville, il s'établit ici, il s'intègre complètement. D'où il arrivait du sanatorium où il était traité pour tuberculose.
Parce qu'il était lui-même un malade avant d'être un médecin, oui. Hein?
Exactement. Oui. Ben, enfin, oui, il était médecin et malade, et oui, les deux, oui. Et il vient ici pour travailler avec le docteur Archibald à l'hôpital du Royal Victoria.
Et aussi pour se faire soigner parce que Archibald avait inventé, était l'un des ceux qui pratiquaient une technique d'intervention contre la tuberculose.
Hein. Exactement, parce que Bethune s'administrait lui-même son pneumothorax depuis le sanatorium. Alors, il arrive ici. Et il se manifeste sur plusieurs tableaux, en fait, sur la scène artistique aussi, et plus tard, dans les années 30, sur la scène politique, d'abord à l'hôpital Royal Victoria, puis ensuite à l'hôpital du Sacré-Cœur.
Et c'était, on va faire un petit mot sur le pneumothorax, je me tourne vers le docteur Échavé, qui est chirurgien thoracique, hein, donc la même spécialité que Norman Bethune.
Absolument, oui.
C'était le traitement de la tuberculose à l'époque qui permettait de sauver des gens de cette maladie qui était fatale.
C'était un des traitements de la tuberculose. En fait, la tuberculose fait ses rages à ces moments-là, et les poumons atteints présentaient des cavernes, des trous. Et avec la collapsothérapie, on injectait avec le pneumothorax, on injectait de l'air dans la cavité thoraxique. Normalement, il n'y a pas d'air. L'air est dans les poumons. Et puis, ça faisait que la caverne tuberculeuse s'est collabée.
Mm-hmm. Et ça marchait?
Ça s'appelle la collapsothérapie. Ouais. Ça marchait de façon transitoire, mais à la fin, il y a des patients qui guérissaient, surtout si on combinait ça au séjour en sanatorium. Mmh. Et d'ailleurs, Bethune était dans les sanatoriums parce qu'on disait que c'est l'air pur, souvent l'altitude, qui aidait beaucoup ses patients. Et en fait, lui, il a séjourné à plusieurs reprises dans les sanatoriums. Finalement, il a guéri de la
tuberculose. C'est ça.
Mais c'est une maladie qu'il a toujours combattue parce qu'il a identifié aussi ça, du point de vue social, à la misère des gens pauvres, la promiscuité.
C'est ces fameux travaux sur la tuberculose des Canadiens français.
Et que les gens, vraiment, ne meurent pas de leur maladie, ils meurent simplement parce qu'ils ne sont pas capables de vivre, de se soigner, qu'ils n'ont pas d'argent.
C'est ça, Madame Lévesque,
son implication. Oui, il est sensibilisé très tôt. En 1932, il publie un article où, justement, il fait le lien entre la pauvreté et la santé des gens.
Il voyait que les gens, même traités, par exemple, pour la tuberculose, quand ils retournaient dans leur milieu...
Oui, des fois, ils étaient traités trop tard, c'est tout. Parce qu'il faut se rappeler que Bethune arrive à Montréal en 28, et qu'en 28, déjà, on sent la dépression économique. Le taux de chômage à Montréal est effarant, même avant le crash de 29. Le taux de mortalité infantile est un des plus élevés dans le monde occidental. Donc, il arrive dans cette ville où il constate l'état de santé des gens et l'extrême pauvreté, les différences sociales qui sont évidentes dès qu'on se promenait dans Montréal d'un quartier à l'autre.
Et c'était aussi une époque, il faut le rappeler, où la tuberculose était une maladie terrible. Tu as 3 000-3 500 personnes par année au Québec, par exemple.
Au Québec. Oui. Et le taux du Québec est de beaucoup supérieur à celui de l'Ontario, par exemple. Et ça va aussi avec le niveau de pauvreté.
Donc, un médecin qui va intervenir, qui va faire de la médecine avec avec les gens, avec le peuple. Hein. Mm. Un médecin aussi, je me retourne de nouveau vers le docteur Échavé, qui va inventer ou réinventer des instruments de chirurgie.
Effectivement, il va modifier les instruments qui permettaient de faire un pneumothorax, donc la collapsothérapie. Il a modifié cet instrument qu'il a utilisé lui-même. Il s'est fait lui-même des pneumothorax. Il est arrivé à l'hôpital, enlevait sa chemise, plantait une aiguille dans le thorax, injectait de l'air, et puis voilà. Donc, c'est formidable. Et en plus, il inventait des instruments qui, encore aujourd'hui, sont utilisés en chirurgie. Donc, c'est quelqu'un qui avait une créativité extraordinaire et une volonté d'agir, et puis qui était très impliqué avec ses patients. Et la tuberculose, pour lui, étant donné qu'il souffrait de cette maladie, pour lui, c'est devenu un cheval de bataille très important.
Alors, les années avancent et il va adhérer au Parti communiste en 1935 et il va partir en Espagne, la guerre d'Espagne. Il va partir en Espagne pendant un an, 1936-37, hein, Mme Lévesque?
Oui, en fait, il ne sera pas très longtemps en Espagne, mais j'aimerais revenir sur l'automne 35, qui est vraiment un point tournant dans sa vie. Là, il devient engagé politiquement. Et le Parti communiste va être extrêmement important pour lui. Et c'est pour ça qu'il constate la menace fasciste qui se manifeste en Espagne à ce moment-là. Alors, il va partir à l'automne 36, septembre, je crois. Mais il va rentrer ici en 37, au printemps 37. Mais pendant les mois qui a passé là, il a justement mis sur pied ce système de transfusion sanguine mobile au front. Et il était déjà connu, d'ailleurs, à l'hôpital du Sacré-Cœur pour ses transfusions. Enfin, il n'y a rien inventé, mais c'est quelque chose qui...
Mais la transfusion sanguine au front en 1936-37, c'était quand même quelque
chose. C'était assez périlleux, oui. Et puis, d'abord, il donnait son sang pour montrer qu'on pouvait le faire. Ensuite, il recueillait des donneurs parmi les gens sur place.
Et donc, il revient à Montréal pendant un an. Et là, il part en Chine.
Oui. Alors, il revient à Montréal, en fait, pour collecter des fonds pour des orphelins de la guerre civile espagnole. Alors, il vient, il remplit l'aréna Mont-Royal, par exemple. Il fait une tournée d'un bout à l'autre du Canada. Il recueille quand même pas mal d'argent. Et là, son unité de transfusion sanguine en Espagne est reprise par les républicains eux-mêmes. Ils peuvent le gérer eux-mêmes. Et c'est là qu'ils voient qu'il y a vraiment un autre théâtre important. Et c'est en Chine avec l'invasion japonaise. Et c'est comme ça qu'il se porte volontaire pour créer une unité médicale canado-américaine du Parti communiste en Chine.
En Chine. Et c'est là
qu'il va avec Mao, justement, la 8e armée dans le Nord-Ouest.
Et qui va devenir effectivement un héros. Il va mourir là de septicémie, hein, lui-même infecté pendant une intervention chirurgicale. Ça va être en novembre 39. Il va mourir en héros parce qu'il est très, très connu. D'ailleurs, on a ici un petit extrait d'un documentaire produit par l'ONF, l'Office national du film, à la fin des années 60, début des années 70, qui montre un peu comment Norman Béthune était devenu effectivement un héros en Chine, on l'écoute.
Béthune se multiplie. Et non seulement il opère, soigne, pense, mais il forme par l'exemple et les conseils une foule de jeunes gens qui ne le quittent pas des yeux. Il est au centre de toute une organisation hospitalière, un réseau de cliniques mobiles dont dépend la vie de milliers de soldats. Ses instructions, transmises par interprète, peuvent concerner aussi bien Mao Tse-Tung que le préposé à la cuvette. Il doit faire face à une extrême pénurie de fournitures, mais il apprend aux Chinois à improviser, à fabriquer leurs propres médicaments, à forger de toutes pièces l'équipement indispensable. Ainsi, dans le même temps qu'il ne cesse d'écrire aux journaux canadiens pour réclamer du secours, il explique aux Chinois comment se débrouiller si les secours ne viennent pas. En un an, il est devenu une figure légendaire de la Chine.
Donc une figure légendaire de la Chine. Marc Renault, quand on entend ça, on voit qu'effectivement ce personnage a été extraordinaire en Chine. Est-ce que vous diriez, Marc Renault, que c'est Norman Béthune, c'est de la médecine sociale, là encore une fois, avant la lettre?
Bien sûr. Norman Béthune, d'ailleurs, est le personnage canadien le plus connu à l'étranger après Céline Dion. à cause des Chinois, à cause de Romain Nero. Béthune était un homme extrêmement engagé, on l'a dit. Il était révolté de voir ses patients rechuter en rentrant à la maison. Mais c'était aussi quelqu'un qui était très engagé sur le plan international. Sa lutte contre le fascisme est absolument remarquable pour quelqu'un de l'époque. Sa lutte pour l'assurance maladie ici au Canada est remarquable aussi.
Oui, il y avait des plans aussi. Il avait eu des plans pour l'assurance maladie, effectivement.
C'était un poète, c'était quelqu'un qui s'occupait des enfants. C'était quelqu'un d'assez remarquable, à vrai dire. La grande question, c'est qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui, évidemment, parce que le contexte a radicalement changé. Mm-hmm. Est-ce qu'il deviendrait médecin sans frontières? Peut-être. Mm-hmm. Mais c'est quelqu'un qui s'engagerait énormément sur le plan international. Moi, c'est ce qui me frappe le plus dans le personnage, surtout à son époque.
Et on est dans les années 30. Absolument. Hein? C'est incroyable. Absolument. Ouais. Et c'était probablement pas au Canada quelque chose qui se faisait beaucoup non plus. Hein?
À ce que je sache, non. Là, André, vous pouvez commenter.
On envoyait 1200 volontaires dans les brigades internationales en Espagne. Nous sommes le pays, après la France, qui avait envoyé le plus d'hommes par rapport à la population. Donc, on oublie que il y avait aussi les missionnaires catholiques, mais il y avait aussi des engagements politiques.
Je reviens à Norman Béthune et à ce qu'on vient d'entendre, docteur Échavé. Est-ce que vous diriez, vous, que c'est un médecin sans frontières avant la lettre?
Moi, ça m'a toujours frappé comme un homme passionné, un homme engagé, un homme qui probablement, aujourd'hui, sûrement, qu'il ferait partie d'une organisation humanitaire comme Médecins sans frontières ou une autre. Mm-hmm. Mais sûrement que c'était un homme d'action. Et sa vie a été pour moi une inspiration parce que c'est quelqu'un qui cette volonté d'agir et d'agir contre le mal. Et le fascisme représentait le mal. Moi, je fais mes études en Espagne. J'étais en Almeria et à Malaga où les bombardements ont eu lieu. Et ces fronts d'Almérie, ces fronts d'Andalousie, où il avait ces unités de transfusion qui étaient quand même une nouveauté, Et c'était quand même extraordinaire, rappelez-vous. Que,
mais vous étiez en Espagne à l'époque, on parlait plus beaucoup de la guerre civile quand même.
Non, j'étais en Espagne plus tard, mais oui. on était une famille oui. républicaine et puis on en parlait. Mm-hmm. Et puis rappelez-vous que Federico García Lorca, il est mort assassiné en Espagne, en Andalousie. Et non, c'était une guerre atroce en 3 ans. C'était épouvantable. Exactement. Et comme on a dit, ces brigades internationales, comme madame a dit, il y a eu quand même beaucoup de Canadiens, et la moitié sont morts, mm-hmm. pour lutter contre ces fléaux terribles, le fascisme. Et c'est pour ça qu'il s'est engagé en Chine, parce que c'était le même combat.
Donc ça, c'est un peu ce qu'il a vécu et comment il est mort aussi. On va faire, je ne voudrais pas paraphraser Mao Tse-tung, mais on va faire un grand bond en avant. Et on va venir à aujourd'hui, justement, à l'héritage de Norman Bethune, à son actualité d'une certaine façon. Alors, je vais retourner encore vers l'historienne André Lévesque. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se souvenir de lui, mis à part le fait que c'était un grand personnage, 80 ans après sa mort?
Vous savez, notre système de santé, qui est tellement menacé aujourd'hui, a des antécédents. Il n'est pas arrivé...
Du
jour
du ciel,
au lendemain, hein. avec la révolution qu'on appelle tranquille. Certaines personnes y pensaient depuis longtemps. Et dans les années 30, Bethune en particulier a réuni des amis dans un groupe pour, ça s'appelait le Montreal Group for the Security of the People's Health. Ils avaient des plans. Et ce qui est intéressant, c'était au début de 35-36, avant l'élection de Maurice Duplessis. Maurice Duplessis apparaissait comme un réformateur à l'époque. On ne savait pas trop ce qui était pour se passer parce que les libéraux étaient tellement discrédités. Alors, on a présenté 3 plans différents. Et évidemment, bon, ça a été rejeté. Mais ceci dit, on y pensait. Et il y en a d'autres qui y ont pensé. Il y avait d'autres groupes qui... Donc, l'idée a fait son chemin. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'influence de Keynes au Canada. Et puis, on continue et petit à petit. Donc, l'idée a fait son chemin. Il faut reconnaître... Je dis pas que c'est une histoire linéaire. Puis, bon, oui, il y a une chose qui mène à une autre. Mais quand même... Il faut reconnaître les antécédents.
Donc, c'est pour ça qu'il faut, effectivement, il est bon de se souvenir de Norman Bethune. On va revenir à cette question de Médecins sans frontières. Hein. Vincent Échavé, est-ce qu'il serait, comme vous, dans Médecins sans frontières?
Il serait sûrement un homme engagé parce que les mêmes problèmes qu'il a vécu, on les a maintenant. Les guerres sont toujours là, les famines sont toujours là, les injustices sont toujours là. Les problèmes, par exemple, de Darfour qu'on n'arrive pas à régler parce qu'il y a une inertie des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Il y a un tas de terrains de bataille et il serait sûrement un homme très engagé. Ça, c'est sûr. Et ici, parce que ici, ça commence aussi l'action humanitaire. Notre système de santé pourrait être en péril. Notre système de santé, peut-être pas en péril de disparaître, mais en péril de s'affaiblir notablement.
Marc Renault, est-ce que vous pensez qu'il serait dans Médecins sans frontières, Norman Bethune?
Mais sûrement, il serait très engagé.
Il serait quelque part, oui.
Bethune a deux côtés. Il y a un côté d'engagement politique profond par rapport à la justice, l'égalité, l'accès aux soins. Et il y a un côté médecin très terrain, pratico-pratique, d'aider des malades. Et si on le projette aujourd'hui, il me semble que sur le plan politique, Bethune s'engagerait très profondément dans un mouvement qui est en train d'émerger à l'échelle de la planète, qui consiste à dire pourquoi on ne créerait pas un système d'assurance maladie universel à travers la planète. Pour les Canadiens, ça coûterait 40 $ par personne, d'après ce que la Banque mondiale dit. Mm-hmm. Et je suis convaincu que Bethune deviendrait un très ardent supporteur de ce mouvement-là. Maintenant, ça, c'est la politique. Du côté plus médecin, me semble-t-il que Bethune serait beaucoup à la recherche de moyens pour amener les soins aux populations qui en ont besoin.
Ce que font les organismes comme Médecins sans frontières.
Oui, mais je pense à quelque chose comme le train de la vie en Afrique du Sud, par exemple. Après la révolution de l'apartheid, là, on a créé un énorme train qu'on circule à travers le pays pour aider les gens de l'optométrie là-dedans, de la clinique dentaire, etc., etc. Il y a une autre idée sur laquelle Bethune, sans doute, serait intéressé, c'est l'idée des docteurs en boîte.
Les docteurs en boîte.
Ouais, c'est l'idée d'utiliser tous les containers inutilisés dans les ports du monde et de les transformer en cliniques médicales qui pourraient circuler à travers les pays. Mais quand on regarde l'Afrique subsaharienne, le premier besoin, c'est d'avoir accès aux soins, des soins de qualité, bien sûr. Oui. Bon. Et Bethune serait sans doute préoccupé, comme il a été préoccupé de la transfusion sanguine, de trouver le moyen d'amener les soins aux populations qui en ont besoin. Et il commence à y avoir des exemples de choses possibles. Il me semble que c'est là-dessus qu'il s'engagerait le plus. Médecins sans frontières a un peu ce genre de caractéristiques.
Oui, j'allais dire, mais c'est plus ça ressemble à Médecins sans frontières, non?
Oui. Médecins sans frontières agit surtout dans l'urgence et très peu dans les développements, dans l'urgence et dans les témoignages. C'est ça qui caractérise Médecins sans frontières. Donc, l'action de Bethune, l'homme comme tel dépassé le cadre était simplement de l'urgence. Et il y avait une vision beaucoup plus large, une vision sociale. C'est ça qui m'a toujours fasciné. Moi, comme chirurgien, je suis chirurgien de guerre avec MSF, donc j'ai travaillé dans beaucoup de terrains, mais de façon ponctuelle. Mais l'idée des vétunes, ça allait beaucoup plus loin.
Donc un peu c'est ce que dit Marc Renaud. Hein. Ouais, c'est ça. Pas seulement l'intervention héroïque au moment où ça va mal, mais vraiment une intervention beaucoup plus large pour changer globalement les conditions.
L'accessibilité des soins dans les pays pauvres, les problèmes de l'industrie pharmaceutique, que nous, on s'est attaqué, MSF s'est attaqué à ça. Il y a un tas de médicaments qui ont été produits, mais seulement quelque peu pour les pays pauvres. Mmh.
Mais on le fait un peu pour le sida, ça, Marc Renaud, dans cette intervention de base, là.
Absolument. Il y a eu une incroyable croissance des fonds qui sont destinés aux pays en voie de
développement.
Ça marche ou ça marche pas?
Ouais.
Ça n'a pas l'effet tout à fait désiré. Et le problème, c'est que c'est tellement ciblé sur des maladies particulières, ça fait en sorte que les travailleurs de la santé qui sont peu nombreux, qui ont tendance à s'exiler, s'en vont travailler dans ces secteurs-là plus rémunérés. Et les soins généraux, eux, sont pas couverts. Mm-hmm. Et c'est aussi mal
coordonné. C'est un peu une critique qu'on peut faire.
Ah, c'est énorme.
Parce que les gens du SIDA, par exemple, disent oui, mais l'argent qu'on met dans le sida permet justement de développer des dispensaires, de faire en sorte qu'il y ait des médecins, etc., qui vont faire autre chose que le sida.
C'était la théorie au point de départ. Mais encore une fois, il y a eu des milliards et des milliards investis là, derrière le sida, tuberculose. Bon. Mais la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ces fonds-là ne devraient pas être utilisés pour des soins généraux? Est-ce que c'est normal qu'une mère reçoive un médicament pour pouvoir donner naissance à un enfant qui soit contaminé par le sida, alors qu'elle n'a aucun soin gynécologique ou... ça n'a pas de sens.
De base,
Est-ce que ça a du bon sens de guérir ou de soutenir un petit garçon qui a le sida alors que ça va boire de l'eau infectée et qu'il va mourir du choléra quelques années après? Il faut repenser l'aide internationale et Béthune serait quelqu'un qui serait au cœur de ce mouvement-là, me semble-t-il.
Vous êtes d'accord avec ça, docteur Echelet?
C'est un problème tellement vaste qu'on en connaît, je fermais les yeux, je comprends la situation, ça va au-delà de tout. C'est vraiment le problème de la malnutrition. Les enfants qui ne sont pas vaccinés, 1 million d'enfants qui meurent de la rougéole parce qu'il n'a pas été vacciné, 10 millions d'enfants
si simple
qui meurent
à prévenir,
en bas de l'âge de 5 ans, 2 millions parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, les problèmes de la malnutrition, c'est immense le problème, ce n'est pas seulement le problème du sida, mais c'est un problème global. Je pense que Béthune aurait quand même des batailles immenses à livrer à l'échelle planétaire. Parce qu'à l'échelle planétaire, il y a quand même la moitié de la population qui vit avec moins de $2 par jour, 1,5 milliard avec moins d'un dollar par jour. Et c'est réel, c'est pas une invention.
On parle beaucoup de mondialisation aujourd'hui, mais il y avait un très beau mot de l'époque de Béthune, c'est l'internationalisme aussi, qui veut dire un petit peu autre chose, Marc Renaud.
Dans le cas présent, ça veut dire utiliser la mondialisation pour que ça serve à tout le monde.
Oui.
Oubliez pas, notre espérance de vie est de l'ordre de 80 ans ici. Dans 46 pays du monde, elle est de 40 ans.
Oui.
Bon,
écoutez. Ça veut dire beaucoup.
Nous, notre espérance de vie croît de 3 mois par année. Eux, elle décroît dans certains pays. Et Béthune serait scandalisé. Il essaierait d'aller politiquement au nerf de la guerre. Et à mon avis, ça tourne autour du soutien aux soins, l'assurance maladie, etc. Et il essaierait de trouver des moyens pour s'assurer que ces soins-là se rendent aux gens.
Alors, on arrive déjà à la conclusion de la discussion. On va avoir donc une importante année Norman Béthune, la ville de Montréal, l'Université Concordia, le musée McCord, le Centre d'histoire de Montréal, Tourisme Montréal même, le Centre communautaire chinois, parce qu'on l'a dit, pour les Chinois, Norman Béthune, c'est un héros. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette année-là? Je vais commencer, je vais faire le tour de la table comme ça, Vincent Echavec. Qu'est-ce qu'on devrait retenir, comme professeur de médecine, de chirurgie,
j'aimerais beaucoup que la figure de Béthune soit connue dans les écoles de médecine, parce que c'est une image puissante pour un jeune médecin. Je pense que la médecine en blouse blanche, on devait aller beaucoup plus loin que ça, et que le médecin, c'est ça qui me frustre un peu, que beaucoup de nos jeunes médecins ne suivent pas un exemple humanitaire, ils ne s'engagent pas dans
la mettre un peu de social dans la tête de nos étudiants en médecine.
Beaucoup plus. Et puis, pour ça, il faut en parler de Béthune et d'autres, comme Lucy Tisdale aussi, mais il faut aussi parler de la situation dans le monde, de la santé dans le monde, parce que souvent, on vit dans une bulle et on ne comprend pas que le monde va mal, va très mal des points de vue santé.
Donc, c'était Vincent Echavé, chirurgien au Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Marc Renaud, sociologue, Université de Montréal. Vous, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de cette année, Norman Béthune?
Deux choses. L'importance de l'engagement international. Et deuxièmement, il faut agir. L'engagement international, on vit dans une situation extrêmement privilégiée. La planète est en train de se métamorphoser. Il faut que les Québécois et les Canadiens s'implique là-dedans et face à la fois au plan des idées et au plan de l'action. Il faut agir. Beto ne faisait pas juste parler, aussi il essayait vraiment concrètement d'aider des malades. Et ça aussi, c'est une leçon qu'il faut retenir.
Et André Lévesque, donc historienne, professeur à l'Université McGill, ce que vous aimeriez qu'il ressorte de cette année?
Je ne peux qu'appuyer ce qui vient d'être dit. Moi aussi, je pensais à un message d'un côté d'altruisme et de l'autre côté d'engagement. On ne peut pas rester indifférent à ce qui se produit en ce moment. Depuis 35 ans, là, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres à l'échelle planétaire et au Canada et au Québec s'est agrandi. Il faut réagir et je crois que quelqu'un comme Béthune a réagi à son époque. Nous vivons à une autre époque, mais il est essentiel de s'impliquer. On ne peut pas rester indifférent et à l'échelle planétaire autant que locale.
Alors, André Lévesque, je vous remercie beaucoup, ainsi que Marc Renaud et Vincent Échavé. C'est très gentil de venir en studio. Merci.
Merci.
Merci à vous.
Ici Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
Depuis la nuit des temps, les crocodiles et les alligators fascinent les humains que nous sommes. Il faut dire qu'avec leur imposante mâchoire garnie de crocs acérés, les crocodiliens inspirent la crainte et imposent le respect. Mais leur survie ne tient parfois qu'à un fil, puisqu'ils sont menacés par la chasse et par la pollution. Pour mieux les faire connaître, Luc Fougérol a écrit « Crocodile », un très beau livre illustré de superbes photos publié aux éditions de La Martinière. Autodidacte, il a fondé avec son frère la Ferme aux crocodiles qui accueille pas moins de 400 crocodiles en Provence, dans le sud de la France. C'est dans les studios de Radio France à Avignon qu'il s'est rendu pour répondre aux questions de Chantal Srivastava. Il lui raconte tout d'abord comment il est devenu accro aux crocos.
J'ai passé mon enfance dans le sud marocain où j'étais initié aux reptiles en général par une maison qui était un fou de serpents et qui m'a lancé là-dedans. Et quand j'étais petit, à l'âge de 14 ans, j'étais pensionnaire et un lundi matin, un copain de pension me dit « À Marseille, il y a un magasin où il y a des petits crocodiles, ils sont super, tu devrais aller voir. » Et moi j'avais 14 ans, je n'ai rien dit à mes parents, je suis parti à Marseille et je suis tombé nez à nez avec un aquarium plein de bébés crocodiles craquant, et j'ai dit à la dame, je serais content d'en acheter un, mais j'ai pas assez d'argent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez m'en garder un? Et je suis revenu un mois et demi après, avec 50 francs français de l'époque, et j'ai acheté ce premier caïman, c'était un caïman, donc originaire d'Amérique du Sud, et j'ai eu la chance de pouvoir le garder au collège où j'étais pensionnaire, en salle de sciences, et ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que j'ai plein d'anciens pensionnaires de cette époque-là, époque ancienne malheureusement, qui se rappelle tout à fait de ce caïman et viennent souvent me rencontrer.
Vous l'aviez appelé comment? Vous vous rappelez de son nom?
Il s'appelait Croc, tout simplement.
Tout simplement. Alors, depuis Croc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres crocodiliens. Luc Fougérol, près de 400 qui sont vus. L'an dernier, vous avez reçu quoi? 320 000 visiteurs dans votre ferme aux crocodiles, qui est la plus grande serre tropicale en Europe. Vous élevez littéralement des crocodiles, Monsieur Fougérol?
Alors, on élève des crocodiles dans le sens où les crocodiles vivent chez nous, s'accouplent, se reproduisent. Et puis après, on fait naître des petits ou non à la demande d'autres parcs zoologiques dans le monde, puisque nous avons déjà beaucoup et qu'on ne pourrait pas faire naître tous les ans 2000 ou 3000 crocodiles comme nous serions capables de le faire si on voulait. Et évidemment, on n'a pas la capacité de garder tous ces animaux-là, donc on ne fait naître que sur demande pour d'autres parcs zoologiques dans le monde.
Revenons plus précisément à ce livre, ce très beau livre, Luc Fougérol, qui s'intitule tout simplement « Crocodile », qui est publié aux éditions de La Martinière. Vous aviez un objectif avoué et très noble en publiant ce livre, qui est un livre de photographie, mais où également on veut passer un message.
Ah oui, c'est un livre qui donne envie de mieux connaître les crocodiles au grand public et de sensibiliser le grand public aux problèmes des crocodiles qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Mais quand on s'occupe de la conservation des crocodiles, on s'occupe en fait de la conservation de tous les animaux qui sont en dessous, de tous les animaux qui vivent proches des mares, qui vivent proches de l'eau. Et l'eau, évidemment, est des sources de vie pour chacun d'entre nous.
Alors, le problème avec les crocodiles, c'est bien évidemment la chasse, mais également la pollution, je soupçonne.
Alors, oui, absolument. La chasse a été réglementée par une convention, la Convention de Washington, dans les années 75. Ça a bien fait tomber la chasse et ça réglemente le commerce. Mais aujourd'hui, il y a un véritable fléau supplémentaire, vous venez d'en parler, c'est la pollution des milieux. Et par exemple, l'année dernière, on a trouvé 110 gaviales morts de la Chambal River, donc en Inde. Et ça, c'est terrible parce que c'était 110 gaviales adultes et qu'aujourd'hui, cette espèce-là, par exemple, mais d'autres, on pourrait les citer aussi, sont véritablement menacées d'extinction. Donc,
le gavial est vraiment en haut de la liste là, pour ce qui est des crocodiles.
Le gavial est vraiment en haut de la liste. Donc, c'est celui qui a un museau très fin, long, cylindrique et qui est un mangeur de poissons qui vit en Inde et au Népal. Et à la ferme aux crocodiles, on a 6 représentants qui nous ont été donnés dans les années 2000 par le gouvernement népalais. Sont magnifiques.
Ce qui rend à vos yeux, Luc Fougérol, et vous le dites bien dans votre livre, les crocodiles si intéressants, ce sont plusieurs choses. La première, c'est que pour vous, ce sont littéralement des statues vivantes qui sont venues de la préhistoire. Et les photos que vous publiez dans votre livre illustrent vraiment comment ils ont des formes parfois préhistoriques. Ils ont l'air venus de la nuit des temps.
Ils sont carrément venus de la nuit des temps. C'est 220 millions d'années pour les premiers. Les crocodiles dits actuels, c'est 65 à 70 millions d'années. Donc, ceux qu'on peut voir dans la nature ou dans les parcs zoologiques, ceux-là, ils ont 65 à 70 millions d'années qui n'ont pas changé sur cette forme actuelle. Donc, ça, c'est complètement incroyable.
Ils ont cohabité avec les dinosaures, donc?
Ils ont cohabité en même temps que les dinosaures. Et alors, on ne sait pas exactement pour quelles raisons ceux-ci ont disparu et que les crocodiles sont toujours là. On imagine que les crocodiles sont encore là parce qu'ils étaient plus liés au milieu aquatique et qu'ils ont peut-être pu se sauver là-dedans. Mais ce n'est pas du tout une affirmation que je donne, c'est simplement une hypothèse.
Vous parlez de crocodiles et de milieux aquatiques. Lorsqu'on les voit sur la terre ferme, on a l'impression qu'ils sont un peu lourds, qu'ils vont bouger rapidement, mais en mouvement saccadé. Leur richesse, leur force se déploie particulièrement, il faut le dire, dans l'eau plutôt que sur la terre ferme.
Moi, je dirais qu'en effet, sur la terre, ils ont souvent l'air D'un bloc de rocher au soleil, comme ça, bien que moi je les trouve très beaux, très sculptural. Et déjà, je les trouve beaux comme ça, même quand ils ne bougent pas. D'ailleurs, la majeure partie du temps, les crocodiles ne bougent pas. Mais attention, il faut ne pas se fier à l'eau qui dort, on dit ça. Oui. Les crocodiles sur Terre sont capables d'aller très très vite sur de faibles distances. Et évidemment, quand ils sont dans l'eau, ben, tout est fait pour qu'ils aillent vite. Ils sont en forme hydrodynamique, ils ont une queue énorme, qui est un véritable muscle propulseur. Et là, ils sont capables d'une vitesse incroyable et même de saut au-dessus de l'eau à de très grandes hauteurs, puisqu'on a des photos de crocodiles dont il n'y a plus que les pattes, le bout des pattes arrière qui est dans l'eau, toute la longueur du corps qui est hors de l'eau. Donc, c'est des animaux très, très intéressants avec des capacités incroyables, des capacités physiques, mais aussi, j'allais dire, intellectuelles. Bon, n'exagérons rien, non, si vous voulez. Mais justement, c'est des animaux qui ont un véritable tempérament. Moi, j'ai une anecdote où j'ai récupéré chez des gens un crocodile qu'ils ne pouvaient plus garder parce qu'il était devenu grand. Et la personne l'avait ramené d'Égypte, donc ce qu'il ne faut pas faire, évidemment. Tout petit, à 20 cm, acheté dans les souks d'Assouan. Et ils l'ont ramené élevé chez eux et il vivait dans la cuisine. Il avait une baignoire contre le radiateur. Et alors, j'avais dit à cette personne, quand vous me le donnez, le CD, dites-moi comment il vivait chez vous. Elle me dit, il est très, très propre. Il va faire ses besoins toujours sous l'armoire. C'est vrai que c'est assez
comme
une anecdote. Mais c'est assez amusant parce que c'est complètement vrai. Les crocodiles vont faire leurs besoins toujours au même endroit. Et à la fin de leur vie chez eux, Il avait 6 ans, il faisait 1m40, 1m30, 1m40. Il ne lui donnait plus à manger. Le crocodile attendait que ses gens soient à table. Et quand ils étaient à table, il venait quémander, en quelque sorte. Et les gens lui donnaient un morceau de viande ou un morceau de poisson. Et il vivait très bien comme ça. Donc les crocodiles s'habituent tout à fait aux gens qui les entourent, aux gens qui les élèvent. Ils sont même capables de répondre à des réflexes conditionnés et à répondre à leur nom si on les habitue à ça.
Luc Fugérol, vous avez donc voyagé pour préparer ce livre, pour aller voir les crocodiles dans leur milieu de vie?
Bien sûr, j'ai voyagé et je continue à voyager dès que je peux, tout le temps, très souvent en tout cas. Et là, actuellement, je prépare un autre livre sur les cobras et je pars très prochainement en Inde, par exemple.
Le crocodile le plus chouette que vous ayez jamais vu, si chouette est un qualificatif qu'on peut utiliser pour ces bêtes qui en terrorisent plus d'un.
Alors, il y a énormément de crocodiles chouettes, comme vous dites. Quand j'étais jeune, à l'âge de 18 ans, je suis allé voir les caïmans noirs en Guyane française, Guyane étant un département français. J'ai trouvé ça complètement extraordinaire. Puis après, beaucoup plus tard, j'ai eu un coup de cœur pour le gavial, me trouvant dans le parc national de Chitwan au Népal, un matin, à la recherche du gavial avec un guide. Déjà un tableau extraordinaire, puisque en arrière-plan de cette zone, qui est une zone tropicale quand même, où il fait chaud, où il y a des tigres, des éléphants, et il y avait en arrière-plan la chaîne de l'Himalaya, c'était déjà un tableau extraordinaire. Et je suis tombé sur mes 3 premiers gavials qui étaient ensemble, énormes, et avec des pans sauvages qui sont venus boire à côté. Et donc ça, c'est vraiment le tableau qui me reste. Et c'était, je l'écris dans le livre d'ailleurs, le déclic pour mon engagement à la conservation des espèces.
Le crocodile, qui est un peu, vous l'avez évoqué brièvement, M. Fugérol, le baromètre de l'état des écosystèmes, parce qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire, et donc sa survie, le fait qu'il se porte plus ou moins bien, va être révélatrice de ce qui se passe pour les autres espèces qui sont en dessous.
Absolument, absolument. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de problèmes de pollution, de crocodiles qui meurent parce que les poissons, enfin, les autres animaux de la chaîne alimentaire, c'est les poissons, les petits crustacés, les insectes, sont eux-mêmes atteints de la pollution. Et donc, oui, bien sûr, mais c'est ce que je veux expliquer, c'est que quand on protège les crocodiles, on protège toute une chaîne jusqu'à l'eau, et l'eau est une source de vie pour chacun d'entre nous. Donc c'est très important. D'ailleurs, dans le livre, je l'écris aussi, c'est un chef de terre, un sage africain qui me disait le jour où il n'y aura plus de crocodiles, il n'y aura plus d'eau.
Une sage parole, donc, qu'on trouve dans votre livre dont vous êtes venu nous parler, Luc Fugérol. Je vous remercie infiniment d'avoir fait un détour par les studios de Radio France à Avignon. Merci beaucoup.
Merci à vous de me recevoir. Merci de parler des crocodiles.
Et je rappelle justement que votre livre s'intitule « Crocodile ». Il est publié aux éditions de La Martinière, un livre sur les crocodiles illustré de fort jolies photos. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Et voilà, c'est ce qui met fin à notre émission cette semaine, une émission réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Sylvain Labrec, journaliste Gaëlle Lucia Berdou, Chantal Srivastava et Yannick Villedieu, journaliste au site Internet Lily Marin. Ici Sophie-André Blombin, passez une bonne et de belles semaines. Revenez-nous dimanche prochain pour une autre édition des Années-Lumière.